Daniel.
Ah, mais c'est pimeur, quand même.
Ah, la tipsy. J'ai vu qu'on peut aller à l'animal.
There's a light, a certain kind of light, that never shone on me. I'd like my life to be with you, just to be with you. There's a way, everybody say, to do each and every little thing. But what good does it bring if I can't have you, girl, if I can't have you?
Sur le pont des arts avec Nathalie Amar, du lundi au jeudi à 15h10 TU sur RFI.
À Paris et Brazzaville, il est 7h, 9h30 à Téhéran. Merci d'écouter RFI.
Andréane Mélard.
Et bonjour Paul Lonsin-Spinelli.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Dans votre journal, Téhéran percuté par les bombes israéliennes pour le 18e jour consécutif.
Oui, c'est une vague de frappes à grande échelle qui a été lancée cette nuit sur la capitale iranienne. Selon Israël, de puissantes explosions ont retenti à quelques centaines de mètres de notre correspondant Siavosh Ghazi. Nous sommes en ligne avec lui dans une minute. Le très lourd bilan aussi d'une attaque pakistanaise sur Kaboul hier soir. 400 morts selon les autorités talibanes d'Afghanistan. En France, pour conquérir la mairie de Paris, au municipal, Rachida Dati, candidate de droite, doit se résoudre à une alliance avec le centre. Et puis le trèfle irlandais bourgeonne aujourd'hui. C'est la Saint-Patrick, jour du saint patron de l'Irlande. Notre correspondante s'est rendue dans le berceau de cette fête mondialement connue.
Plus de deux semaines après le début de la guerre au Moyen-Orient, aucun signe d'accalmie à l'horizon.
Oui, notamment à Téhéran, de nouveau visé par une vague de frappes à grande échelle cette nuit, comme l'a annoncé l'armée israélienne. Siavosh Ghazi, vous êtes le correspondant d'RFI dans la capitale iranienne. Siavosh, vous avez entendu cette nuit de très fortes explosions non loin de chez vous.
Absolument, à 3h du matin, j'ai été réveillé par de puissantes explosions. J'ai cru que l'appartement de mon voisin avait été touché par un missile. Et puis, immédiatement, trois autres missiles, aussi puissants que le premier. J'ai cru vraiment que c'était la fin. Le cadre de la fenêtre de ma chambre à coucher s'est détaché du mur de 5 cm. Une baie vitrée de 4 mètres de long et 2 mètres et demi de hauteur. Une autre fenêtre s'est fendue au salon. Les rideaux sont tombés. J'ai cru que c'était un commissariat à 800 mètres à vol d'oiseau qui avait été visé dans le coin. Je suis sorti à 5h du matin pour aller vérifier. En fait, c'est un site militaire dans la montagne, dans la partie haute de cette partie de la ville de Téhéran qui a été visée à environ 1,5 km de mon appartement. Je pense qu'il s'agit de bombes d'une tonne ou de deux tonnes. Peut-être des GBU, mais en tout cas, on n'a jamais entendu de tels bruits et de telles explosions depuis le début de la guerre. Et je ne peux imaginer l'état des maisons autour qui ont certainement été touchées de manière beaucoup plus forte.
Et Siavosh, aujourd'hui, c'est aussi une date importante en Iran, c'est la fête du feu. Les autorités iraniennes ont quand même mis en garde la population.
Absolument, un avertissement qui a été lancé notamment sur les téléphones portables, mais aussi à la télévision. Les autorités qui demandent à la population d'éviter de sortir le soir. Habituellement, donc les gens sortent dans la rue, allument des feux, donc pour célébrer l'arrivée du printemps et la fin de l'hiver. Donc l'arrivée du printemps en même temps que le nouvel an le 20 mars. et donc avec des pétards qui sont lancés, des pétards qui sont lancés. Donc les autorités ont demandé aux gens de ne pas sortir à cause de la situation de guerre dans laquelle on vit, d'autant plus qu'il y a un appel qui a été lancé par Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah d'Iran, et il a demandé à la population de sortir dans la rue à cette occasion, en appelant les amis du peuple iranien, en fait Israël et les États-Unis, de protéger les gens qui sortiraient dans la rue, alors on ne sait pas comment, et en affirmant aussi que des cellules dormantes de la garde impériale, donc des cellules de plusieurs personnes de cette garde impériale qu'il affirme avoir créé, des cellules de la garde impériale ou la garde Javidan, comme on l'appelle en persan, sont prêts à intervenir de manière armée pour soutenir des manifestations donc de la population contre le pouvoir, et donc alors qu'il y a toute la ville de Téhéran est quadrillée par des miliciens islamistes, donc les autorités ont lancé des mises en garde à la population de ne pas sortir et de ne pas lancer des pétards alors qu'il y a des bombardements continuels sur la ville de Téhéran, mais aussi les autres villes du pays.
Merci beaucoup Siavosh Ghazi, correspondant d'RFI à Téhéran. Selon l'Agence nationale d'information libanaise, cette fois, Israël a aussi pris pour cible 3 quartiers de la banlieue sud de Beyrouth cette nuit, considérés comme des bastions du Hezbollah. Le groupe chiite soutien de Téhéran a affirmé de son côté avoir attaqué hier des soldats et des tanks israéliens dans le sud du Liban, zone où l'armée israélienne mène des opérations au sol.
Les pays du Golfe, eux aussi, ont essuyé de nouvelles frappes nocturnes.
Oui, des débris de missiles ont notamment tué une personne à Abu Dhabi cette nuit, aux Émirats Arabes Unis. Doha, au Qatar, a également été ciblé. 2 pays alliés des États-Unis, mais toujours pas vraiment protégés par l'armée américaine. De quoi instaurer des doutes dans ces États sur leurs relations avec les Américains. C'est en tout cas ce qu'explique le politologue Hasni Abidi. Il est directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen.
Il y a un débat aujourd'hui dans les pays du Golfe concernant leurs relations avec les Américains et la pertinence de cette collaboration dans la mesure où la guerre en Iran a révélé non seulement la vulnérabilité des pays du Golfe, mais aussi la non-disponibilité des Américains pour assurer la sécurité de leurs partenaires, alors qu'ils sont engagés à travers des accords de défense communes. Le deuxième point, c'est un sentiment d'abandon pour les pays du Golfe, parce qu'ils se disent, malgré la proximité avec Donald Trump, ils n'ont pas été entendus par Donald Trump, eux qui ont demandé dès le départ de ne pas déclarer une guerre dont les conséquences seront coûteuses pour les pays du Golfe. D'où la question aujourd'hui d'une architecture de sécurité entre les pays du Golfe eux-mêmes, pourquoi pas une armée même qui regroupe tous les États du Golfe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les pays du Golfe n'ont pas une alternative à ce parapluie sécuritaire théorique assuré par les Américains. Il faudrait du temps pour trouver une nouvelle approche sur la sécurité.
Hasni Abidi, joint par Claudia Bertram. Autre conflit qui s'envenime, celui entre l'Afghanistan et le Pakistan. Islamabad accuse son voisin afghan d'accueillir des combattants des talibans pakistanais qui ont revendiqué des attaques meurtrières au Pakistan. Ce que Kaboul dément. Hier, un nouveau pas a été franchi dans l'escalade. Selon les autorités afghanes, une frappe pakistanaise sur la capitale a fait plus de 400 morts et 250 blessés, Lila Olkinoura.
Selon le gouvernement afghan, le Pakistan aurait frappé Kaboul lundi soir, touchant un centre de traitement pour personnes toxicomanes, abritant plus de 3000 patients. De nombreux civils auraient été tués. Un récit confirmé par des journalistes de l'agence France Presse qui décrivent des scènes de chaos dans la capitale afghane. Des équipes médicales qui tentent de porter secours aux blessés. D'autres secouristes qui transportent des corps sans vie vers l'extérieur du bâtiment en feu. Le Pakistan, lui, dément cette version et assure avoir mené des frappes de précision contre des installations militaires et des infrastructures de soutien aux terroristes, je cite. Une nouvelle violation de l'espace aérien afghan par le Pakistan, selon le porte-parole du gouvernement des talibans. La veille, une femme et un enfant avaient été tués dans l'est du pays par des obus pakistanais. Ce lundi, Pékin indique qu'un émissaire chinois s'est rendu à Kaboul et à Islamabad pour mener une médiation entre les deux pays et appeler à un cessez-le-feu immédiat.
Lila Olkinura.
7h08 à Paris, en France, le jeu des alliances se déploie avant le second tour des municipales.
Oui, comme à Paris, par exemple, où Rachida Dati, la candidate de la droite, doit combler son retard sur le socialiste Emmanuel Grégoire. Arrivée en tête au premier tour, elle fera donc alliance avec Pierre-Yves Bournazel, le centriste qui aurait pu se maintenir au second. Valérie Gasse, un compromis a été trouvé au terme d'une journée de négociation.
C'est Pierre-Yves Bournazel qui a annoncé officiellement l'accord avec Rachida Dati au journal de 20h de France 2.
Nous avons décidé de fusionner nos listes. Pourquoi ? Parce qu'une majorité de Parisiens attend le changement et l'alternance. Et que, dans mon équipe, une majorité de colistiers et tous les partis qui me soutiennent souhaitaient ce changement et cette alternance et donc cette fusion.
En tant que tête de liste, Pierre-Yves Bournazel valide la fusion mais se retire du jeu.
Pour moi, le chemin s'arrête.
Un renoncement qui en dit long sur la difficulté de ce rapprochement après une campagne tendue entre les deux candidats. Mais Pierre-Yves Bournazel n'avait pas le choix. Rachida Dati est la mieux placée à l'issue du premier tour. Édouard Philippe, le patron d'Horizon, le parti de Pierre-Yves Bournazel, a pesé dans cette décision. Pour lui, impossible de favoriser la victoire de la gauche à Paris en refusant une alliance avec Rachida Dati. Cette fusion sera-t-elle suffisante pour permettre à la maire du 7e arrondissement de s'emparer de l'hôtel de ville sans un accord avec la zémouriste Sarah Knafo, qui n'est pas envisagée. Un élu Renaissance en doute. Pour lui, les voix de Pierre-Yves Bournazel se reporteront pour moitié sur Rachida Dati, pour moitié sur Emmanuel Grégoire. Seul espoir, le socialiste va devoir faire face au second tour, à la concurrence de la liste LFI de Sophia Chikirou, qui a décidé de se maintenir.
Valérie Gasse, chef du service politique de RFI, la limite pour déposer les listes candidates au second tour est fixée à 17h TU. Cette information au Nigeria où des explosions imputés à des attentats suicides ont fait 23 morts et plus de 100 blessés dans le nord-est du Nigeria. C'est ce qu'indique ce matin la police. Et puis ces zones d'ombre de la période d'apartheid qui sont toujours au cœur de vifs débats en Afrique du Sud, où une commission d'enquête était censée établir pourquoi certains criminels de cette période qui n'avaient pas obtenu l'amnistie n'ont jamais été inquiétés par la justice. Enquête qui doit aussi déterminer s'il y a eu des interventions politiques pour faire disparaître ces affaires, notamment de la part de Jacob Zuma et Thabo Mbeki. Sauf que les deux anciens présidents demandent désormais à la justice de forcer la présidente de la commission à démissionner, Claire Bargelès.
Les premières audiences publiques de la commission en novembre avaient été accueillies avec soulagement par les familles de victimes. La déception est donc très grande de voir tout s'arrêter à cause d'une procédure judiciaire pour forcer la présidente, une juge à la retraite, à céder son siège. Ces nouveaux retards sont impardonnables pour Nomonde Kalata, dont le mari a été assassiné par la police de l'apartheid en 1985.
Nous sommes fatigués et nous commençons à être vraiment âgés. Nous exigeons la vérité et nous méritons la justice.
Les deux anciens présidents doutent de l'impartialité de la justicière Mpépé, puisque dans les années 90, elle avait siégé au sein du comité d'amnistie de la commission Vérité et Réconciliation. Et Cyril Ramaphosa a annoncé qu'il ne s'opposerait pas à son remplacement s'il était ordonné par les tribunaux. Thembisile Simelane a beau être devenue ministre du logement au sein du gouvernement, elle continue à porter la voix des proches de victimes en colère en mémoire de sa sœur Nogutula, enlevée en 1983 par la police.
Les actions de ces anciens chefs d'État soutenus par notre dirigeant actuel en vue de stopper les travaux de la commission sont très troublantes. Mais étant donné les premiers témoignages qui évoquent l'existence d'interventions politiques, tout cela n'est finalement pas très surprenant, en tout cas pour moi.
On ignore si les audiences déjà réalisées resteront valides dans le cas où la justice viendrait à obliger la présidente de la commission à se récuser. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
RFI, les 6h12, en temps universel, la suite d'RFI Matin avec Andréane Mellard.
Merci à vous, Paul Lonsin Spinelli. Et dans les prochaines minutes sur RFI, on va retrouver notre grand invité international. Il sera en ligne avec Arnaud Pontus, Nitzan Horowitz, ancien député et ancien ministre israélien. On l'appellera aux alentours de 7h20, heure de Paris. Avant ça, notre rendez-vous aujourd'hui, l'économie avec Stéphane Genest. On parle de Dubaï, les Émirats Arabes Unis touchés par la riposte iranienne dans le cadre de la guerre en cours au Moyen-Orient. Dubaï, place financière majeure dans la région. On va voir un petit peu avec Stéphane toutes les conséquences qu'a cette guerre sur les Émirats Arabes Unis. D'abord, c'est le journal des sports sur RFI. Et on Antoine Grenier de retour en studio pour nous parler de football. Antoine, début aujourd'hui des huitièmes de finale, retour de la Ligue des Champions. Ce sera sur RFI ce soir.
Et oui, avec une petite soirée spéciale du service des sports pour suivre notamment Chelsea-Paris Saint-Germain. Les Parisiens qui partent, on s'en souvient, avec un net avantage après avoir remporté le match aller 5-2. C'était mercredi dernier au Parc des Princes, un festival offensif rassurant pour les tenants du titre. Mais Ousmane Dembélé, le ballon d'or souvent blessé cette saison, buteur d'ailleurs au match aller, considère que évidemment rien n'est fait et que Paris va souffrir à Stamford Bridge.
Notre mentalité c'est toujours de remporter les matchs. On ne peut pas rester sur nos 15-20 derniers mètres à défendre un score et voilà, on va essayer d'attaquer pour emporter encore une victoire. On sait qu'il y a des moments, surtout dans ce genre de match, qui vont être difficiles où voilà, va falloir souffrir un peu. Mais c'est un peu comme la saison dernière, on a remporté cette Champions League, mais on a eu des moments si compliqués, donc il fallait rester très 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 concentré.
Ousmane Dembélé avec Cédric De Oliveira, Cédric De Oliveira qui vous fera suivre donc dans cette soirée spéciale du service des sports. Chelsea PSG, coup d'envoi 20h temps universel.
Et on suivra ça bien sûr avec une grande attention. Autre choc, Antoine, le Real Madrid sera en déplacement à Manchester
pour affronter des Citizens blessés, battus 3-0 à Santiago Bernabéu au match aller. Les Merengues enregistrent pour l'occasion le retour de Kylian Mbappé. Durant l'absence du Français, le Real a enchaîné 3 victoires consécutives avec 9 buts marqués. Alors, le Real est-il meilleur sans lui ? Eh bien, pas si sûr aux yeux de son entraîneur Alvaro Arbeloa.
Il est difficile de penser que sans le meilleur joueur du monde, une équipe puisse être plus compétitive. Mais cela en dit long sur l'effectif du Real Madrid, sur les efforts que font beaucoup de ses joueurs, ainsi que sur le niveau et la qualité de chacun d'entre eux. Donc je suis heureux que, même sans le meilleur joueur du monde, les gens parlent très positivement du rendement de l'équipe. En tout cas, Kylian est maintenant disponible. Vous verrez ce soir combien de temps il peut jouer.
Il est disponible, donc demain vous verrez.
Manchester City, Real Madrid, coup d'envoi 20h, temps universel. En même temps, Arsenal, Leverkusen, avec du suspense. Il y a eu un partout au match aller. Une soirée de Ligue des Champions qui s'ouvre dès 17h45, temps universel, avec Sporting Portugal, Bodo Glimt.
Et on rappelle, Radio Foot International sur RFI, 16h10, temps universel. Du côté des sélections, Antoine, porté par sa réussite lyonnaise, Hendrick retrouve le Brésil.
Le jeune attaquant appelé par Carlo Ancelotti en équipe nationale pour les matchs de préparation au Mondial contre la France et la Croatie, les 27 et 31 mars. La fin d'un an d'absence pour le joueur de 19 ans, auteur de 6 buts et 4 passes décisives avec l'OL. En revanche, pas de Neymar dans la liste. À 34 ans, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection peine à retrouver son niveau à Santos.
On termine avec notre petit point basket. 50e succès de la saison pour Victor Wembanyama et San Antonio.
Double-double pour le Français, auteur de 21 points et 13 rebonds. De quoi offrir aux Spurs la victoire 119 à 115 sur les Clippers de Los Angeles. 50 succès en une saison, ça n'était plus arrivé depuis 9 ans à San Antonio, qui font vers les playoffs.
Merci à vous, Antoine Grenier. Vous revenez dans une demi-heure pour un nouveau journal des sports. Non, dans un peu plus d'une heure. À tout à l'heure. La guerre au Moyen-Orient, toujours au cœur de l'actualité, avec ses frappes israéliennes et américaines quotidiennes, avec aussi ces tirs iraniens qui touchent pas mal de pays de la région, notamment les Émirats Arabes Unis. Ce matin, on s'intéresse tout particulièrement à Dubaï. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Andréane.
Dubaï, place financière majeure dans la région, terre d'accueil pour les capitaux et les grandes fortunes du monde entier. Conséquence donc, Stéphane, avec ce conflit en ce moment, la puissance financière de Dubaï est rudement mise à l'épreuve.
Exactement, et pour comprendre il faut revenir sur le modèle économique très particulier de cet émirat. Contrairement à certains de ses voisins du Golfe, Dubaï ne se repose pas principalement sur le pétrole. Son économie est tournée vers les services, le commerce international, la finance ou encore le tourisme. La montée en puissance de la ville comme centre financier international est d'ailleurs relativement récente, à peine 30 ans. Et au cœur de ce dispositif, justement, le centre financier international de Dubaï, inauguré en 2004, on y trouve aujourd'hui des milliers d'entreprises comme des banques internationales, des fonds d'investissement, des cabinets d'avocats ou encore des sociétés de gestion de fortune.
Et c'est parce que la réglementation et la fiscalité sont avantageuses que Dubaï est devenu ce pôle financier majeur.
Tout comme en raison de la stabilité régionale, et c'est précisément parce que l'émirat vit du commerce, des flux financiers et du tourisme qu'il est aujourd'hui en danger, car la guerre actuelle menace ces flux. Depuis le début du conflit, la ville a été visée par plusieurs attaques. Des drones et des missiles ont frappé certaines infrastructures infrastructures énergétiques, notamment l'aéroport de Dubaï également. Au-delà des dégâts matériels, ces attaques perturbent l'activité économique. Et justement, dans la finance internationale, on le rappelle, la confiance, elle est essentielle. Si les investisseurs commencent à percevoir la ville comme une zone à risque, les flux de capitaux pourraient se détourner vers d'autres places financières.
Mais pour le moment, ce n'est pas le cas.
Non, on ne constate pas d'exode massif des capitaux, tout comme des expatriés qui travaillent dans le secteur. Alors oui, en effet, plusieurs entreprises étrangères ont rapatrié leurs employés. D'autres demandent de ne plus aller au bureau, mais pour l'heure, il n'y a pas de panique générale, non. Car en fait, si la guerre devait durer, les difficultés de Dubaï pourraient profiter à d'autres centres financiers régionaux, comme par exemple en Arabie Saoudite, avec sa capitale Riyad. Mais au-delà de cette option, les alternatives restent limitées.
Oui, car la plupart des pays du Golfe, Stéphane, ont aussi été touchés par les tensions militaires.
Et cela réduit l'avantage compétitif de toutes ces places financières à l'échelle planétaire, Dubaï incluse. Mais pour l'heure, la région reste solide. Pour certains experts, Dubaï est même en train de devenir un centre mondial d'allocation du capital, c'est-à-dire l'endroit où se décident les investissements vers l'Asie, l'Afrique ou les nouvelles technologies. Et c'est précisément pour cette raison que la guerre actuelle est scrutée de très près par les marchés, parce que si la stabilité de l'émirat était remise en cause durablement, ce ne serait pas seulement un problème régional. Cela pourrait aussi redistribuer les cartes de la finance mondiale en poussant ces grandes fortunes à déplacer leurs capitaux vers d'autres hubs internationaux, comme par exemple Singapour, Londres ou Zurich.
Aujourd'hui, l'économie sur RFI avec Stéphane Genest. Merci à vous, Stéphane. 7h19 à Paris, tout de suite. C'est l'heure de retrouver notre grand invité international. En ligne avec Arnaud Pontus ce matin, Nitzan Horowitz, ancien député, ancien ministre israélien.
Bonjour Nitzan Horowitz.
Bonjour Monsieur Pontus.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes à Tel Aviv, c'est l'une des villes israéliennes les plus souvent ciblées par les missiles et les engins lancés par l'Iran ou le Hezbollah libanais. Est-ce que depuis 18 jours, depuis le début de cette guerre, vous vivez dans la peur de ces attaques ?
En fait, pour être précis, je suis pas à Tel Aviv. J'habite dans un village qui est situé juste sur la frontière libanaise, dans le nord du pays, au nord du Galilée.
Vous êtes potentiellement encore plus menacé.
Moi-même, je suis juste devant la frontière, qui est assez perturbée depuis deux semaines déjà.
Oui. Quand a eu lieu la dernière alerte pour vous, Nitzan Horowitz ?
C'était hier soir, et puis l'alerte, c'est aussi sur nos téléphones cellulaires, téléphones portables, donc c'est partout, et puis c'est tous les jours, il y a plusieurs fois par jour, et aussi il y a beaucoup de tirs, des roquettes, des drones, toutes sortes des avertissements, etc. Donc ça a les sentiments comme quoi on est dans une zone de combat, quoi.
Oui.
C'est vraiment, on le sent tous les jours, chaque heure, chaque minute.
Vous ressentez être au plus près de la guerre ?
Absolument, absolument. Depuis le début de la guerre avec l'Iran, et en fait, il s'agit de deux fronts, quoi. Il y a l'Iran et les missiles iraniens qui frappent Israël. Il y a aussi la guerre avec le Liban, c'est-à-dire avec le Hezbollah. Et il y a les drones et toutes sortes de roquettes et des missiles venant de Hezbollah, surtout sur le nord du pays où j'habite.
Voilà. Oui. Nitzan Horowitz, à l'aube ce mardi, l'armée israélienne a annoncé une nouvelle vague de frappes sur Téhéran, la capitale iranienne, et sur des positions du Hezbollah à Beyrouth. Pour faire simple et pour qu'on fixe déjà les choses ensemble, est-ce que vous soutenez la poursuite de la guerre ?
Non, la poursuite de la guerre, pour l'instant, sert à rien. C'est-à-dire que je comprends bien l'idée de frapper, d'essayer de détruire les capacités militaires et iraniennes, surtout les nucléaires et les missiles balistiques. Mais en ce qui concerne l'objectif assez déclaré, je dirais, des renversements de régime, alors non, ce n'est pas un objectif réel. Et après deux semaines de frappes et des dégâts considérables, donc il est temps de trouver un autre chemin. Ça, on sait que concerne l'Iran. On sait que concerne le Liban, c'est très clair dès le début que ce n'est pas du tout souhaité, ce n'est pas du tout utile de faire une opération terrestre. C'est-à-dire Israël l'a déjà fait plusieurs fois depuis des dizaines d'années. Et puis ce n'est pas le bon chemin.
Mais nous y sommes presque, Nitzan Horowitz, à l'intervention terrestre, parce que de nouvelles frappes en cours. Donc, mais l'armée qui a annoncé avoir lancé des opérations terrestres limitées, vous craignez une offensive terrestre de grande ampleur aujourd'hui ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est l'ambiance que je comprends bien pour lever les menaces qui nous pèsent depuis des années de la part du Hezbollah. Donc l'objectif est clair, mais le moyen d'arriver à cette solution, ce n'est pas par envahir le Liban par la terre, c'est-à-dire d'occuper le sud Liban, etc., etc. On en a déjà fait plusieurs fois et ça a échoué. Donc il faut agir avec le gouvernement libanais. Et vous savez, monsieur, votre président Macron, il a fait une proposition que je trouve tout à fait utile.
Oui, le président français propose des discussions effectivement directes entre le Liban et Israël, discussions qui pourraient avoir lieu à Paris. Ça vous semble être la bonne option ?
Absolument, absolument. Le moyen le plus efficace à désarmer le Hezbollah, c'est par la coopération entre Israël et le gouvernement libanais. Et le gouvernement libanais a aussi un intérêt majeur au désarmement de Hezbollah. Donc, il y a ici une solution, si vous voulez, éviter une invasion terrestre qui pourrait être catastrophique pour le Liban, aussi pour Israël, et trouver un moyen pour le désarmement du Hezbollah. Mais ce qui se passe maintenant, ce n'est pas...
Mais on sent bien le chemin que vous voudriez que ce qui soit pris par votre gouvernement, le gouvernement israélien, mais vous avez entendu, comme nous tous, le ministre israélien de la Défense dire que l'opération terrestre doit s'inspirer de ce qui a été fait à Gaza. On n'est pas du tout dans l'optique de pourparlers.
Oui, malheureusement, depuis le 7 octobre, le gouvernement de Netanyahou réagit seulement sur la voie militaire, quoi. La voie diplomatique n'existe plus pour eux. Et donc, on a vu ce qui s'est passé à Gaza après 2 ans de guerre, après une catastrophe humanitaire horrible, après des dégâts inimaginables. Le Hamas reste toujours en pouvoir à Gaza. Donc, ce n'est pas le bon exemple. Si on veut quelque chose de différent et au Liban, il faut agir avec le gouvernement libanais qui a le même intérêt que nous pour le désarmement de Hezbollah. Ne pas entrer sur une opération terrestre et ne pas détruire Beyrouth et tous ces genres de choses.
Oui, Nitzan Horowitz, on entend bien votre position. Anti-guerre, si je puis dire, si je la résume comme ça, anti-poursuite de la guerre. Il y a tout de même une sorte d'union nationale en Israël depuis le début de ce conflit, avec des sondages qu'ils disent, des Israéliens qui soutiennent majoritairement l'offensive contre l'Iran. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de ramer à contre-courant, d'être un peu seul dans ce positionnement politique que vous affichez ce matin ?
Non, je ne crois pas. Il y a un soutien parmi l'opinion publique israélienne pour le désarmement de Hezbollah, les renversements du régime de Téhéran, de Mollah, pour diminuer, détruire les capacités destructives du régime iranien. Ça, oui, mais ce qui se passe sur le terrain, et ça crée beaucoup, beaucoup de polémiques en Israël. En fait, les gens ne sont pas du tout d'accord, pas tous, avec ce que le gouvernement fait. Et surtout parce que l'objectif de renversement du régime n'est pas un objectif réel. Et là, je crois que la majorité de gens commencent à comprendre ici. Mais vous savez, monsieur, ce n'est pas seulement une décision israélienne, c'est surtout une décision américaine.
Oui, de toute évidence, donc, c'est une opération israélo-américaine. Benjamin Netanyahou n'est pas le seul à faire la guerre.
Absolument, et c'est surtout le président Trump qui tranche. Et donc, on imagine ici, ça c'est le discours qu'on entend, que dans quelques jours, Trump, il va trancher, il va dire il faut arrêter la guerre. Au Liban, c'est une opération israélienne à 100%. Et là, il y a le danger que ça dure encore beaucoup de temps.
Oui, on a bien compris la distinction que vous faites. Hier, il y a des débris de missiles qui sont retombés au cœur de la vieille ville de Jérusalem. Est-ce qu'aujourd'hui, vous craignez une escalade dans ce conflit ? On a bien compris que vous souhaitiez sa fin, mais est-ce qu'on ne risque pas plutôt d'aller vers l'escalade ?